Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Ils se sont donc revus. 8 mois après une première rencontre à Singapour, un coup de foudre orchestré comme un reality show sans aucun résultat sur le fond, Donald Trump et Kim Jong-un ont réouvert les négociations sur le nucléaire nord-coréen. Au-delà des péripéties de ces 2 derniers jours et des éventuelles retombées, c'est bien le lieu choisi pour ces retrouvailles qui mérite l'attention. Hanoï, hôtel de luxe et sécurité maximale, capitale d'un pays de quelque 95 millions d'habitants qui s'étire en longueur sur le flanc sud de la Chine, un développement économique insolent, un régime communiste qui ne badine pas avec la censure, un jeu de balancier habile entre Washington et Pékin, et pour Pyongyang peut-être un modèle à suivre pour atteindre la prospérité sans inquiéter la dictature en place. Le Vietnam, vainqueur au siècle dernier de 3 guerres asymétriques, contre la France coloniale, puis contre les États-Unis jusqu'en 1975, et même brièvement contre la Chine en 1979, le Vietnam qui mérite aujourd'hui son surnom, le tigre de l'Asie. Comment expliquer cet exploit? Quelles sont ses limites et ses zones d'ombre? Jusqu'où le modèle chinois en est-il la clé? Ménager Pékin d'un côté, flatter Washington de l'autre, quel rôle joue le Vietnam dans les équilibres précaires de l'Asie du Sud-Est, dont le président chinois veut faire son précaré? La France a-t-elle préservé une capacité d'influence et l'Europe des atouts économiques? C'est ce que nous allons découvrir ce matin grâce à vous, Benoît de Tréglaudet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Valérie Niquet, merci d'être avec nous, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Par téléphone, et je le remercie, Philippe Lecor, vous êtes à la Harvard Kennedy School, vous travaillez aussi au programme Asie de Carnegie Endowment et à l'Institut Montaigne. Par téléphone, mais de plus près, de Montpellier, Pierre Journoux, merci d'être avec nous. Vous enseignez l'histoire contemporaine à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Et j'ai pu enregistrer un cours entretien par téléphone avec Jean-Philippe Aiglinger, qui est lui chargé de cours en économie du Vietnam et en management interculturel à l'INALCO. Benoît de Tréglaudet, ce qui a été très frappant depuis l'annonce de cette rencontre possible entre Donald Trump et Kim Jong-un à Hanoï, c'est la manière dont l'ingéniosité vietnamienne s'est saisie de cette occasion, et notamment les coiffeurs, puisqu'il y a eu une sorte de concours de coupe de cheveux. Un même coiffeur, semble-t-il, a enregistré dans la même journée 200 coupes de cheveux façon Kim Jong-un et 5 façon Donald Trump. Il faut bien dire que dans un cas comme dans l'autre, c'est évidemment assez douteux sur le plan esthétique. Mais plus sérieusement, cela veut bien dire que Hanoï est désormais situé sur la carte comme étant une plateforme diplomatique importante.
Alors c'est clair que pour les dirigeants vietnamiens, ce sommet est une gigantesque victoire de leur diplomatie. On est à un moment où les Vietnamiens ont envie de montrer qu'ils ont une stature internationale. Ils ont longtemps eu, depuis leur retour sur la scène régionale en Asie du Sud-Est à partir des années 95-96, une stature, on va dire, en devenir localement. Mais là, très clairement, il y a une volonté des élites pour pouvoir équilibrer également leur relation vis-à-vis de Pékin, de retrouver une place ou de trouver une place sur la scène internationale. Et ce sommet arrive véritablement à point nommé.
Et en tout cas, l'annonce du sommet permet aussi d'éclairer en fait ce qui apparaît comme une contradiction, mais qui est en fait une habileté suprême, qui est d'un côté un développement économique basé sur l'ouverture et d'un autre côté un régime politique extrêmement serré.
Alors, D'abord, le contexte, il faut prendre deux choses en considération. La première, effectivement, pour Hanoï, ce qui est important, c'est que ce sommet leur donne déjà aussi les moyens de se présenter en tant que candidat pour un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité. Donc, il faut prouver les choses, il faut prouver que le Vietnam est capable d'être une place de paix, une place qui réunit les plus grands, et ça, c'est important. Pour répondre à votre question, c'est ancien. La politique d'ouverture vietnamienne, ce qu'on appelle le Doi Mui, date déjà de 1986. Et dès le départ, et c'est ça aussi qui a pu parfois tromper certains observateurs, il n'a jamais été question pour les Nord-Vietnamiens, pour les Vietnamiens, de penser ouverture politique et ouverture économique de concert. Il a toujours été, les Vietnamiens ont toujours fait preuve d'un grand pragmatisme, et dès 86-89, il n'était pas question véritablement de sombrer dans la voie soviétique à l'époque. Un comité, le bureau politique s'est réuni en juillet 89 pour débattre de ça dans le plus grand secret. Il fallait absolument tout faire pour éviter, encore une fois, que le Parti communiste vietnamien perde la mainmise sur le pays.
Donc éviter le syndrome Gorbatchev.
Le syndrome Gorbatchev.
Et au fond, nous autres Français européens, on fait toujours la même erreur. C'est-à-dire qu'on s'imagine que le développement économique s'accompagne forcément d'un espace politique élargi.
Alors effectivement, de ce point de vue-là, beaucoup d'experts occidentaux ont tablé sur cette ouverture politique qui allait forcément suivre l'intégration faite du Vietnam dans les circuits économiques internationaux, et les faits ont montré depuis 20 ans que ce n'a pas été le cas.
Pierre Journoux, merci d'être avec nous. Vous êtes à Montpellier, je rappelle que vous enseignez l'histoire contemporaine. Comment caractériser l'évolution du régime vietnamien depuis cette victoire sur les États-Unis en 75?
Ce qui me frappe, pour prendre la question d'une manière un petit peu plus globale, c'est le chemin parcouru, l'ampleur du chemin parcouru depuis les tragédies qui ont marqué la péninsule indochinoise et la péninsule coréenne. On a des plus grands conflits, hein, les plus sanglants conflits de l'après 1945, qui se déroulent entre 1945 et 1991 dans la péninsule indochinoise, dans la péninsule coréenne, même si le conflit est de plus courte durée. Et on a aujourd'hui effectivement un régime vietnamien, comme l'a bien souligné Benoît de Trégaudet, qui accueille un sommet très favorable à sa diplomatie, qui est le fruit d'une histoire complexe, d'une histoire qui puise ses racines justement dans la guerre qui a été meurtrière, donc dans la péninsule indochinoise. Il faut bien se remettre à l'esprit le contexte, hein, des années 50, 45, 50, 60. On a à l'époque des pays qui comptent parmi les plus pauvres de la planète, y compris la Corée du Sud, on l'a un petit peu oublié, mais à l'époque la Corée du Sud fait partie des pays les plus pauvres. La Corée du Nord également, qui est légèrement plus avancée sur le plan économique après la Seconde Guerre mondiale que la Corée du Sud, le Vietnam aussi, la Chine qui sort d'une longue guerre civile, un contexte évidemment très difficile pour tous ces pays, et qui va être marqué par les interactions avec la guerre froide, avec la guerre de décolonisation d'abord contre la France, vous l'avez souligné, trois guerres successives contre la France, contre les États-Unis, puis contre la Chine, dans des contextes extrêmement différents. Mais c'est d'abord, ce qui est frappant, effectivement, c'est le chemin parcouru par le Vietnam, mais aussi par la Corée du Sud, par la Chine populaire, bien sûr, depuis cette tragédie.
Est-ce qu'on peut imaginer, pardon, je vous interromps, mais que pour Kim Jong-un, donc pour le Nord-Coréen, Hanoï, ça représente d'abord la victoire contre les États-Unis. Donc c'est une manière de reconnaître et de consacrer ce statut particulier en Asie.
Très certainement, c'est vrai que le Vietnam est auréolé de cette victoire, avec, il faut le souligner tout de même, l'aide de la Chine populaire, l'aide massive qui a commencé dès la guerre d'Indochine contre les Français, qui a contribuer aussi au succès dans la grande bataille mythique de Dien Bien Phu. Et la Chine va apporter une aide massive à hauteur de 300 000, un peu plus de 300 000 soldats, plutôt non combattants, hein, dans la logistique, l'artillerie, la DCA, etc. Mais la Corée du Nord également. C'est moins connu parce que l'aide est beaucoup plus modeste à la mesure des capacités militaires et économiques de la Corée du Nord de l'époque. Mais elle a envoyé tout de même plusieurs dizaines, de 200 à 400 selon les sources, pilotes qui ont combattu sur des MiG-17, 21, les avions de chasse soviétiques de l'époque, et donné un peu de fil à retordre aux pilotes américains dans le cadre d'une guerre aérienne qui s'est doublé de la guerre terrestre donc dans les années 60.
Vous soulignez le soutien de la Chine aux guerres vietnamiennes. Le paradoxe, c'est que personne n'est plus anti-chinois, semble-t-il, que le vietnamien. C'est même un facteur d'unité nationale fort au Vietnam aujourd'hui.
Absolument. C'est en effet un réflexe, je dirais, collectif des Vietnamiens, quelle que soit leur divergence, voire leur division, qui les rassemble. C'est le sentiment, à tort ou à raison, hein, d'une menace chinoise qui prend la forme d'une politique relativement active, sinon agressive, en mer de Chine méridionale, que les Vietnamiens appellent la mer de l'Est, avec un certain nombre de différents territoriaux dans les archipels des Paracels et des Spratly, qui prend la forme aussi d'une influence économique prépondérante. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Vietnam, et qui devient très dépendant à la fois politiquement et économiquement de la Chine. D'où cette course effectivement au contrepoids que vous avez évoqué dans votre introduction, donc le rapprochement avec les États-Unis, le rapprochement avec le Japon, l'Inde, mais aussi la Corée du Sud. Et la Corée du Sud, c'est assez surprenant compte tenu de l'histoire.
Valérie Niquet, vous voulez réagir à ce que
oui, avec
vient dire notre
historien.
Oui, avec
un autre point en fait qui rejoint ce qui a été dit, mais qui explique aussi pourquoi peut-être le choix du Vietnam, notamment pour la Corée du Nord, c'est qu'en fait les deux sont, la Corée et le Vietnam sont d'anciens états tributaires de l'Empire de Chine. Tous les deux historiquement ont des relations extrêmement complexes et ambiguës avec la Chine, pas uniquement en raison de la stratégie chinoise aujourd'hui en mer de Chine du Sud, ça c'est un fait réel qui explique l'animosité actuelle, mais aussi pour des raisons historiques de domination traditionnelle vers lequel se tourne à nouveau Pékin. Et Pékin d'ailleurs était assez agacé parce que la Corée du Nord ces derniers temps s'est beaucoup tournée vers le modèle vietnamien, justement qui ressemble un peu au modèle chinois, développement et contrôle politique, avec sans doute peut-être des différences quand même un peu en termes d'ouverture. La Chine est beaucoup plus refermée aujourd'hui, je crois. Mais donc ils ont un point commun qui est, ce sont deux régimes qui ont besoin de se développer économiquement, qui sont plus ou moins attirés par le modèle chinois imposé par Deng Xiaoping dans les années 70, mais qui ne sont pas du tout non plus, qui n'ont pas envie de redevenir inféodés totalement à Pékin. Donc c'est aussi, je pense, un des éléments qui explique l'intérêt de la Corée du Nord pour le choix du Vietnam, en fait, comme partenaire, qui, encore une fois, est un moyen de suivre la voie chinoise, mais d'une manière qui ne soit pas trop chinoise, justement.
Précisément, j'ai demandé à Jean-Philippe Eglinger, qui était économiste, jusqu'à quel point ce modèle chinois peut expliquer la croissance spectaculaire quand même, la croissance économique du Vietnam, 7% de croissance en 2018, et en fait un modèle de développement qui semble suivre de façon, en tout cas presque parallèle, ce qu'a été le modèle chinois, en tout cas au cours des 10 dernières années. Jean-Philippe Eglinger.
Le Vietnam a, je dirais, emprunté le même chemin que la Chine, c'est-à-dire que son développement a été tiré par l'investissement et les exportations. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui est semblable. Un autre point qui peut être rapproché en fait de son voisin du Nord, c'est qu'il y a eu un développement suite à une baisse d'efficacité des entreprises publiques et un début de ce qu'on a appelé l'actionnarisation qui, in fine, a, a conduit à une certaine privatisation de ces grands conglomérats publics, qui étaient moins importants au Vietnam qu'ils l'étaient en Chine. Ça s'est développé en fait sur la mise en place de ce qu'on appelle un peu un capitalisme rouge et l'émergence d'hommes d'affaires vietnamiens qui souvent étaient allés étudiés en URSS, et à la chute en fait de l'URSS, on palliait aux problèmes qu'il y avait dans les relations commerciales entre le Vietnam et l'URSS d'alors, le Vietnam dépendant de 80% au niveau du commerce de l'URSS, et on peut se constituer des fortunes, sont retournés au Vietnam pour investir dans le développement d'un certain nombre de sociétés, pour, en liaison avec les autorités vietnamiennes, pour, je dirais, prendre le relais du développement économique qui était un peu laissé pour compte et délaissé par les entreprises publiques. Donc il y a eu aussi l'émergence de ce qu'on appelle les capitalistes rouges, comme M. Van Nhat Vuong, qui est le président de Vingroup, et qui s'est constitué un empire, et qui maintenant, grâce à cet empire, tire un peu la croissance, et en fait permet à ce pays communiste de bénéficier d'apports d'argent privé pour pouvoir assurer un développement, son développement économique.
Mais le régime, évidemment, continue de tenir tout ce secteur sous contrôle.
Le régime politique garde un certain contrôle. Le régime politique garde un contrôle par les autorisations administratives qu'il peut faire dans la création en fait de ces entreprises. Il garde un contrôle via le système bancaire pour l'allocation des ressources, pour le financement de développement de son économie. Il garde aussi un contrôle via les terrains et via les licences qu'il octroie en fait à ces sociétés pour se développer. Mais effectivement, il compte sur ce secteur privé, hein, qui est maintenant de plus en plus lié à ces riches vietnamiens, pour pouvoir enclencher et assurer en fait le développement économique.
Partons près de Boston vous rejoindre, Philippe Lecor, merci d'être avec nous par téléphone, spécialiste de la Chine et du monde chinois. Vu des États-Unis, l'idée que ce sommet avec la Corée du Nord puisse avoir lieu à Hanoï, est-ce que cela froisse en quoi que ce soit la mémoire historique? Est-ce que cela réveille l'amertume de cette défaite? Ou est-ce qu'il y a eu tellement de désastres depuis que cela s'est en quelque sorte effacé?
Oui, je crois qu'il faut voir les choses dans un contexte un peu régional et mondial, avec la relation très compliquée entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. Le fait que le Vietnam, comme on disait, se positionne un peu comme une alternative à la Chine et essaie de jouer sa carte. Et du point de vue américain, je pense effectivement que la guerre du Vietnam, bon, s'est terminée en 1975. Je ne dirais pas que les plaies ont été pansées, mais en tout cas, on est passé à autre chose. Il y a eu le Moyen-Orient, il y a l'Afghanistan, il y a tout un tas de crises dans le monde. Et puis on est sous la gouverne d'une administration qui fonctionne, comme vous le savez très bien, par coup aussi parfois. Et actuellement, le coup, c'est d'essayer de régler la relation avec Pékin sur le plan commercial et un petit peu sur le plan stratégique. Ça risque d'être très difficile. Donc le Vietnam essaie de se positionner, mais en même temps, il y a un petit problème, c'est qu'effectivement, il y a le Parti communiste vietnamien qui a une relation proche avec le Parti communiste chinois. Et il y a une population vietnamienne qui est relativement hostile à la Chine. Donc comment les autorités vietnamiennes peuvent se situer par rapport à ça? Mais en tout cas, elles essaient d'attirer des investissements américains. Les États-Unis sont aujourd'hui le sixième investisseur. Les échanges commerciaux sont passés en 20 ans de 450 millions de dollars à 54 milliards de dollars. Il y a un excédent commercial en faveur du Vietnam, donc ça risque de devenir un problème si on se fie à la dialectique de Donald Trump. Mais en tout cas, sur le plan stratégique, il est clair que le Vietnam est une alternative à la Chine en Asie du Sud-Est et même en Asie, tout en étant un régime communiste. C'est là le paradoxe.
Et cela veut dire en fait que le Vietnam peut être le gagnant de ce bras de fer commercial entre Washington et Pékin à partir du moment où il y a un certain nombre d'entreprises qui se relocalisent au Vietnam.
Absolument. C'est tout à fait ce que le Vietnam essaye de faire avec la Corée du Sud, avec le Japon. Il essaie de le faire vis-à-vis de l'Europe et il essaie de le faire vis-à-vis des États-Unis. Il y a General Electric, par exemple, qui était récemment sur place, qui a un projet d'usine. Il y a des écoles de commerce américaines qui sont en train de se mettre en place à Saigon. Donc il y a une vraie volonté. Et puis les États-Unis aussi sont devenus un partenaire militaire de la Chine. Ils ont vendu des navires patrouilleurs, il y a eu des visites...
Du Vietnam, un partenaire militaire du Vietnam. Oui.
Du Vietnam, absolument. Il y a eu des visites de bâtiments américains de la US Navy à Cam Ranh Bay. C'est quand même un petit peu ironique, alors qu'il y a eu effectivement une guerre quand même qui a fait des millions de morts côté vietnamien. Donc je pense que actuellement, si vous voulez, les relations sont au beau fixe. D'ailleurs, elle l'était déjà du temps de Barack Obama, mais le sommet potentiel entre la Corée du Nord et les États-Unis à Hanoï, c'est un coup diplomatique et c'est une façon pour le Vietnam de se positionner dans la région, dans une région qui est quand même relativement inféodée à la Chine, il faut bien dire les choses. En Asie du Sud-Est, il y a peu de pays qui résistent à cette présence massive de la Chine, présence économique, présence stratégique, route de la soie. Et le Vietnam est peut-être le seul, avec l'Indonésie peut-être, qui a le poids suffisant pour contrer l'influence chinoise en Asie du Sud-Est.
Alors Donald Trump était allé à Hanoï une première fois en novembre 2017 pour assister à un sommet économique. C'est d'ailleurs là où il a annoncé sa décision de se retirer du partenariat transpacifique que Barack Obama avait tenté de mettre sur pied. Mais le Vietnam est resté dans cette alliance économique. Donc ça veut bien dire que par rapport à Washington, il y a quand même un doigté certain de la part des autorités vietnamiennes de ne pas s'aligner complètement sur l'administration Trump.
Bah, encore une fois, si vous voulez, il y a une relation très proche avec la Chine, donc ça nécessite quand même une bonne dose de diplomatie de la part des dirigeants vietnamiens, puisqu'ils ont une relation avec le parti frère à Pékin, ils essaient d'attirer des investisseurs américains, et ils essaient de se développer en tant que puissance économique, donc ils ont besoin d'échanges avec les différents acteurs. Mais je pense qu'ils savent que, étant donné la concurrence stratégique entre la Chine et les États-Unis, ils savent qu'ils peuvent exister et qu'ils doivent apparaître comme une économie ouverte, un peu un modèle pour la Corée du Nord. Ça personnellement, je ne crois pas beaucoup. Hein. Je crois vraiment que la Corée du Nord, c'est une autre affaire et que le régime de Kim, il préfère garder le pouvoir et qu'il n'a pas tellement envie de se réformer économiquement. En tout cas, il faudra qu'il le fasse sous haute surveillance du régime, du parti. En revanche, le Vietnam est une économie ouverte, on peut dire, Benoît Trigledé en parlait très bien, depuis le Doi Moi, et c'est aussi le modèle chinois à ce niveau-là. Mais il y a aussi le contrôle, la cybersécurité, il y a une loi sur la cybersécurité qui s'est ouverte. Ça, c'est un problème pour les investisseurs américains, hein, pour Facebook, pour Google, qui ont critiqué cette nouvelle loi sur la cybersécurité qui va à l'encontre de leurs intérêts. Et là, les Vietnamiens, moi j'étais récemment au Vietnam, les Vietnamiens de base, je dirais, sont relativement critiques de leur gouvernement par rapport à cette loi qui contrôle les données, etc., qui est un peu une loi à la chinoise, disons.
Précisément, Benoît de Trégledé, cette loi donc sur la censure à la vietnamienne, c'est véritablement la copie conforme de la loi chinoise sur tout ce qui touche à Internet.
Oui, effectivement, certaines personnes sont même allées jusqu'à vérifier mot par mot la traduction du texte et en étaient très 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 près de l'original. La logique est respectée. La logique est respectée depuis le dernier congrès du Parti communiste vietnamien en 2016. Il y a une reprise en main qui est très nette, en fait, des questions sécuritaires au pays. Il a fallu imposer un homme contre des gens qui étaient proches de l'ancien Premier ministre tout-puissant. Et Pékin est heureux de voir un régime se resserrer et redevenir stable à ses frontières. Il y a cette dimension-là qui est importante parce que depuis 2016, on a assisté à un rapprochement, à un redéveloppement des coopérations sécuritaires entre les deux voisins communistes.
Ça veut dire quoi ? C'est une coopération étroite entre deux partis communistes ou est-ce que, sur le plan idéologique, étant donné le pragmatisme vietnamien que l'on souligne à chaque fois,
il y a une erreur qu'on fait trop souvent. Déjà, le terme de communisme au Vietnam, vous discutez avec des Vietnamiens aujourd'hui, trentenaires, quadragénaires, ils vous parleront de l'époque communiste comme étant une époque passée.
Mais il y a quand même l'oncle Ho.
Oui, mais l'oncle Ho, c'est chaque nation sur Terre a son père spirituel, a son libérateur. Donc, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'est le communisme. On pourrait naturellement débattre de la question, mais aujourd'hui, on a affaire à un État qui est un État autoritaire, qui gère d'une main de fer, en fait, son ouverture économique, et qui voit un million de ces jeunes bas-mots chaque année descendre dans les rues et pour chercher du travail. Et l'enjeu, il est là. Il est surtout de ne pas perdre la main avec son peuple, avec sa population moyenne qui est consumériste, qui revendique son ouverture au monde, etc. Donc l'enjeu pour l'élite vietnamienne aujourd'hui, elle est véritablement d'assurer en fait ce contrôle de la population. Et Pékin l'a bien compris. Et Pékin a utilisé ça, sachant très bien, vous avez évoqué la sinophobie traditionnelle des Vietnamiens, mais cette sinophobie, disons-le franchement, ce patriotisme exacerbé des Vietnamiens, il est fondamentalement instrumentalisé par le Parti communiste vietnamien et il sert les intérêts du Parti communiste vietnamien. Donc les Chinois l'ont compris, leur intérêt à Pékin, c'est d'avoir un régime qui est stable et qui est plutôt pas trop divergent de leur vue. Et ce qui se passe au Vietnam aujourd'hui, malgré les contentieux, on pourra en parler, les contentieux maritimes qui sont une autre question sensible, pour le moment, d'un point de vue purement politique, ce qui se passe aujourd'hui au Vietnam plaît à Pékin.
Est-ce que l'entretien de ce qui est apparu tout au long de cette longue guerre d'Indochine et du Vietnam comme une exaltation d'une morale révolutionnaire. Est-ce que ça tient le coup par rapport à une société avec des classes moyennes qui, semble-t-il, maintenant représentent plus de 70% de la population et, vous le disiez vous-même, consumériste, et donc friande, ouverte, gourmande d'un mode de vie
On n'a malheureusement pas le temps, il faudrait juste remonter une chose qui est importante, c'est le marxisme-léninisme tel qu'il a été adopté par les Vietnamiens à la fin des années 40, au début des années 60, était une idéologie qui était profondément morale. C'est la première fois que dans des textes, on va dire, dogmatiques communistes, on parlait de morale. Et donc, quand on est passé du communisme, on va dire, un petit peu plus dur dans les années 50 à ce qu'on a appelé la pensée Ho Chi Minh au début des années 90, qui était une sorte d'adaptation au contexte nouveau, en fait, de l'idéologie au Vietnam, la morale était également au centre. Quand aujourd'hui, secrétaire général du Parti communiste, président de la République socialiste du Vietnam, parle de campagne de lutte contre la corruption, il met en avant l'idée de morale. Dans un État confucéen, la morale est au centre de toutes les actions, vraies ou fausses.
C'est une continuité plus ancienne d'ailleurs que la doctrine communiste.
C'est un discours que le peuple peut décrypter. Et donc c'est un discours qui est utilisé par les élites.
Donc jusqu'à une époque très récente, le pouvoir à Hanoï était détenu par un triumvirat. Mais maintenant, il y a eu fusion entre deux rôles, le secrétaire général du Parti communiste et le président du Vietnam. Donc, Eric Scholl, bonjour, vous dirigez Courrier International, notre partenaire, qui est donc le nouvel homme fort du Vietnam.
Il avait 10 ans au moment de la bataille de Dien Bien Phu, qui se solda par la défaite française, et 31 ans à la fin de la guerre du Vietnam contre les Américains en 1975. On peut dire que Nguyen Phu Chung est aujourd'hui un vieux routier du Parti communiste vietnamien, un appareil dont il a gravi tous les échelons jusqu'à en devenir le chef, c'était en 2011. Mais il a désormais une deuxième casquette, nous explique le magazine américain Time, puisqu'il a été élu président du Vietnam à l'automne. Et il est donc, nous dit le journal, le premier dirigeant vietnamien à détenir ces deux titres, celui de président et celui de secrétaire général du Parti communiste, depuis le père fondateur Ho Chi Minh, c'était dans les années 60. Donc à 74 ans, l'homme fort du pays concentre tous les pouvoirs, relève Time, qui le compare avec Xi Jinping, le numéro un chinois. Les deux frères rouges ont usé des mêmes méthodes pour asseoir leur pouvoir, nous dit le magazine Foreign Policy. Ils ont tous les deux pris le prétexte de grandes campagnes anticorruption pour procéder à des purges politiques. Ainsi, raconte Foreign Policy, de la même façon qu'en Chine, Bo Xilai avait été viré sans ménagement de son poste de chef de parti de la ville de Chongqing, et ainsi que du Politburo, puis emprisonné à vie pour corruption, eh bien au Vietnam, c'est l'ancien chef du parti de Ho Chi Minh Ville, Dinh La Thanh, qui lui aussi était considéré comme l'étoile montante du parti, eh bien qui a été condamné pour corruption à 13 ans de prison en janvier de l'année dernière. Mais la comparaison entre les dirigeants s'arrête plutôt là.
Alors, justement, quelles sont les différences entre le président vietnamien et le président chinois?
Alors d'abord, ils n'ont pas la même histoire familiale. Nguyen Phu Chong est issu d'un milieu de paysans pauvres, c'est en tout cas ce que nous dit sa biographie officielle, tandis que Xi Jinping, on le sait, est lui le fils d'un dignitaire de Mao. De même, nous rappelle le magazine Time, ils n'ont pas suivi la même carrière. Autant Xi Jinping a pu connaître le pouvoir à travers différents postes en province, autant Nguyen Phu Chong est lui un pur apparatchik, ce natif d'Hanoï qui a été le chef idéologique du parti, n'a eu aucune expérience de gouvernance auparavant, raconte le journaliste. Et troisième différence, leur personnalité et leur style sont à bien des égards opposés, relève Foreign Policy. Le Vietnamien, reconnaissable avec ses cheveux argentés, apparaît ainsi comme un technocrate studieux et modeste. Sur le plan privé, il a la réputation d'être un homme humble, nous dit le journaliste. Il habite une maison lambda aux couleurs ternes. Là où Chong fait son possible pour se fondre dans la charpente du Parti communiste vietnamien, Xi Jinping apparaît lui comme une personnalité hors du commun, commente l'auteur de ce portrait. Il poursuit, à l'inverse de cette tendance croissante en Chine pour le culte du chef, eh bien Chong lui a plutôt accumulé un pouvoir discret en jouant d'ailleurs les factions les unes contre les autres. En réalité, les deux dirigeants n'ont sans doute pas les mêmes ambitions. C'est ce que résume la revue asiatique de Diplomate. Alors que Xi Jinping veut changer la Chine, Nguyen Phu Chong, lui, veut changer le Parti communiste vietnamien. Pour cela, il regarde du côté de la Chine, avec laquelle il entretient, dit-on, des relations plutôt cordiales. Il considère même, écrit Time, que le mode de gouvernance autoritaire chinois est un modèle qu'il faut copier. Ce n'est pas avec lui qu'il faut espérer une quelconque amélioration dans le domaine des droits de l'homme, conclut le journaliste.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Valérie Niquet, je rappelle que vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste du Japon et des conflits dans cette partie-là de l'Asie. On célèbre, c'est pas tout à fait le cas, parce qu'au contraire, on essaye d'enfouir cet épisode, mais il y a 40 ans, il y a eu une guerre entre la Chine et le Vietnam. Une guerre méconnue, ou en tout cas effacée des livres d'histoire.
Alors, une guerre méconnue, parce que Pékin ne met pas vraiment l'accent sur cet épisode, qui s'est soldé par un échec pour une armée chinoise qui sortait de la révolution culturelle, qui était dans un état délabrement complet, et dont certains disaient d'ailleurs qu'elle avait peut-être été lancée, c'était une guerre punitive à la chinoise, c'est-à-dire qu'on remet en ordre l'Empire et ses marches, et on voulait donner une leçon au Vietnam à cause de son soutien accordé. Dans les conflits en Asie du Sud-Est au Cambodge. Cambodge. Ouais. La Chine voulait imposer son autorité sur le Vietnam, sur le petit Vietnam. Pékin adore parler de ses voisins comme le petit Vietnam ou
des vassaux en quelque sorte.
Des vassaux. Simplement, l'Armée populaire de libération a subi non pas peut-être un échec total, mais en tout cas ça n'a pas été une victoire et c'est totalement méconnu. Enfin, en Chine, on en parle parle très peu, et notamment le nombre de victimes. Ce qui est important, c'est de voir aussi que c'est que pour Deng Xiaoping, à l'époque, qui lui lançait sa politique de réforme, et voulait notamment réformer l'armée, qui était pléthorique mais inefficace, eh bien certains ont même pensé qu'il avait encouragé ou lancé ce conflit contre le Vietnam pour montrer justement dans quel état de délabrement la Chine était arrivée après les révolutions culturelles, et pour pouvoir imposer sa stratégie de réforme et d'ouverture vers les États-Unis à des caciques du parti qui, eux, n'y étaient pas favorables. Donc il y a des jeux extrêmement complexes, mais ce qui est vrai, c'est que Benoît Tréglaudet, du côté vietnamien, pourra en parler, mais encore aujourd'hui en Chine, un des enjeux, c'est que les victimes ou les familles des victimes nombreuses en Chine de cette guerre qu'on ne met pas en avant, eh bien, ont énormément de mal à se faire entendre et même à commémorer leur mort. Et c'est un enjeu, notamment dans les provinces sud de la Chine.
Aujourd'hui, les enjeux sont davantage maritimes.
Voilà.
À propos de ces îlots dont vous nous parlez assez fréquemment, d'ailleurs, dans cette émission. Donc, les Paracels et les Spratleys. Oui. Et alors, j'ai remarqué que les Vietnamiens ne parlent évidemment pas de mer de Chine, ils parlent de mer de l'Est.
Oui, alors on a beaucoup parlé du rapprochement politique entre les partis communistes vietnamiens et les orientations politiques proches entre la Chine et le Vietnam, notamment la volonté de contrôle politique, c'est certain. Mais quand on parle même avec des cadres du parti communiste vietnamien d'une manière moins officielle, et sans parler de la population, le ressentiment à l'égard de la Chine, notamment en raison de la stratégie que Pékin a mis en place depuis déjà la fin des années 80 et même avant en mer de Chine, et qui a directement visé la souveraineté nationale du Vietnam, puisque la Chine s'est emparée, Benoît Tréglaudet me redonnera la date exacte, mais s'est emparée de l'ensemble des Paracels, je crois, en 1974. Il y a eu la finalisation à la fin des années 80, donc la Chine contrôle totalement.
Et il y a eu un incident sur un forage pétrolier.
Il y a très souvent des incidents, puisque Pékin interdit en fait au Vietnam de procéder à des forages dans des zones que la Chine revendique, en exerçant des pressions sur le régime vietnamien. Et de son côté, Pékin ne s'est jamais gêné pour forer dans des zones que le Vietnam considère comme son territoire national. Et par ailleurs, il y a également des tensions dans les îles Spratley. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que Pékin revendique l'ensemble de cette fameuse mer de Chine méridionale comme une sorte de lac chinois, et que aucun des pays riverains, à commencer par le Vietnam, qui est très en pointe sur ce sujet-là, y compris d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, le Vietnam a été très favorable à ce fameux jugement du tribunal d'arbitrage de la Haye en 2016, qui donnait raison aux Philippines, et donc même si
dans un conflit du même genre.
Oui, c'est exactement le même conflit. Et donc, en fait, on voit bien que pour des raisons stratégiques, et c'est ça qui explique pourquoi le Vietnam s'est autant rapproché des États-Unis, pourquoi aussi aux États-Unis d'ailleurs, beaucoup de conseillers autour de Donald Trump, qui font partie des réalistes, sont tout à fait favorables à un renforcement des liens, y compris militaires, avec le Vietnam.
Benoît Tréglaudet, donc cet enjeu, les enjeux maritimes sont prioritaires pour Hanoï.
Les enjeux maritimes cristallisent littéralement l'avenir de la relation bilatérale sino-vietnamienne, mais également la place des États-Unis en Asie du Sud-Est. Et là, j'apporterai peut-être une nuance, parce que la politique américaine dans la zone est pas extrêmement lisible pour les Vietnamiens, et on l'a vu récemment lorsque au mois d'octobre dernier, les Vietnamiens ont préféré annuler en grande partie une partie des cérémonies qui devaient être organisées l'année prochaine pour fêter le 15e anniversaire de l'accord de coopération militaire américano-vietnamien, reprochant aux Américains d'être un petit peu trop, si vous me permettez l'expression, pushy avec eux sur de nombreux sujets, et au risque de déplaire à Pékin. Donc je pense que pour les dirigeants vietnamiens, ils envisagent et ils profitent de la relation avec Washington, parce que Washington est loin et Washington est plein d'allants, mais dans les faits, ils ont à gérer une proximité qui est bien plus permanente et qui leur limite leur marge de manœuvre. Il y a on l'oublie peut-être trop souvent, mais je crois qu'il y a réellement pour les Vietnamiens un effet de contrainte. Ils sont pas dans une sorte de marge de manœuvre extrêmement libre. Ils font ce qu'ils peuvent si certains hauts fonctionnaires de Washington estiment que Hanoï un jour sera leur cheval de bataille pour pouvoir rééquilibrer leur présence en Asie du Sud-Est, je pense qu'ils se trompent.
En tout cas, on voit aussi que sur le plan économique, et c'est la question que j'ai posée à Jean-Philippe Aiglinger, il y a cette crainte, d'une invasion économique chinoise, en tout cas d'une pénétration trop en profondeur. La réponse de Jean-Philippe Aiglinger.
Il faut savoir que, je vous parlais du commerce extérieur vietnamien, il faut savoir, si vous voulez, que le Vietnam entretient avec deux pays asiatiques un déficit commercial extrêmement fort à hauteur de 30 milliards de dollars avec la Corée du Sud et la Chine. Hein, et en fait, si vous voulez, au niveau commercial, si le Vietnam, pour donner une image globale, si le Vietnam arrête d'exporter vers ces deux grandes zones que sont l'Europe et le premier pays de destination des exportations qui est les États-Unis, il aura du mal à rembourser en fait l'argent qu'il doit à la Chine en raison des importations chinoises. Donc ça c'est le premier point au niveau, donc il y a une dépendance au niveau du commerce extérieur. Maintenant, concernant votre question, effectivement, il y a beaucoup de zones industrielles au Vietnam, il y en a 400. Beaucoup de ces zones, en fait, des terrains, sont actuellement font l'objet d'investissements chinois qui finalement viabilisent des zones des terrains agricoles et accueillent en fait des investissements étrangers. Et effectivement, progressivement, vous avez une implantation chinoise ou d'intérêt chinois qui investissent dans la viabilisation de certaines de ces zones, notamment dans le nord ou dans le sud du Vietnam, et qui effectivement peuvent poser des questions sur la capacité chinoise de progressivement s'installer dans certaines zones vietnamiennes. Et à ça, j'ajouterai également que vous avez un fort investissement chinois, notamment sur Ho Chi Minh Ville, dans tout le secteur immobilier, où des Chinois en fait sont en train progressivement de racheter des appartements pour pouvoir loger en fait des Chinois qui viennent investir et travailler au Vietnam.
Pierre Journoux, je retourne vers vous à Montpellier où vous enseignez l'histoire contemporaine à l'université Paul Valéry. Vous connaissez bien le Vietnam. Jusqu'à quel point la division entre le nord et le sud de ce pays, qui est encore une fois tout en longueur, hein, qui a une géographie très très particulière, jusqu'à quel point est-ce que cette division, ou plutôt cette différenciation, est encore perceptible ?
Elle est perceptible dans le contrôle qu'exerce Hanoï sur l'ensemble du pays, en particulier sur le sud et la métropole, la grande métropole méridionale qui est Ho Chi Minh Ville. Elle est perceptible dans les mentalités, jusque dans la langue aussi, puisque la langue vietnamienne est un peu différente entre le nord et le sud, et un certain nombre de Hanoïens ont du mal à se faire comprendre des Vietnamiens de Ho Chi Minh Ville. Elle est aussi perceptible à travers peut-être les coopérations ou les modèles universitaires. Un certain nombre d'universités se sont construites sur des modèles plus occidentaux, voire européens, contrairement au nord. Donc voilà, il y a une traduction qui effectivement est le fruit de l'histoire, qui n'est pas d'ailleurs que l'apanage de la période américaine. Puisque on sait sur le plan historique que les régions nord et sud ont été divisées pendant plusieurs siècles, donc c'est un pays qui s'est unifié par la force des armes et des mariages comme la France, mais qui effectivement dont l'héritage se voit est encore visible encore aujourd'hui dans la culture, les différenciations économiques, urbaines, etc. Et les partenariats que ces métropoles peuvent avoir avec tel ou tel pays occidental notamment.
Vous mentionnez la France. Quelle est encore l'influence française ? On a l'impression, quand on se rend au Vietnam et même dans l'ancienne Saïgon au sud, que la France a beaucoup disparu du Vietnam, à commencer par
oui,
la langue.
Oui, non. Ça, c'est sûr. Mais on juge cela, l'actualité, à travers des présupposés qui sont en partie erronés sur l'histoire, puisque le Vietnam n'a jamais été francophone.
même sous l'ère coloniale, francophone au sens où une majorité de Vietnamiens auraient à un moment donné parlé français. L'enseignement français de la langue et de la culture, de la littérature, de l'histoire française, effectivement a été cantonné à des écoles françaises ou franco-indigènes, comme on les appelait à l'époque, et donc il y a une toute petite minorité, une partie de l'élite vietnamienne de l'époque. Donc il ne faudrait pas avoir à l'esprit l'image d'un Vietnam qui était sous la période coloniale, francophone au point, par exemple, de l'Algérie, département français à l'époque. Mais il y a eu...
Enfin, il y a quand même un lycée Marguerite Duras, ça c'est quand même la moindre des choses.
Oui. Et puis Alexandre Yersin, faut pas l'oublier, Alexandre Yersin à Hanoï, qui a été d'ailleurs inauguré dans des nouveaux locaux et somptueux locaux à Hanoï par Édouard Philippe lors de sa visite officielle en novembre dernier, avant qu'il se rende à Dien Bien Phu. Et on a une ancienne génération qui commence à disparaître, bien sûr, qui a été formée dans ces écoles et qui parle un français remarquable et qui a conservé, malgré le fait qu'elle a parfois et même souvent pris les armes contre la puissance coloniale française pendant la guerre d'Indochine, qui a conservé vraiment un amour, le mot est approprié, je crois, pour la langue, la littérature, l'histoire, la poésie française, et un certain nombre d'anciens combattants que j'ai rencontrés, et non des moindres, m'en ont parlé avec beaucoup d'émotion. Vraiment, c'est quelque chose d'assez frappant. Alors, la relève est en partie assurée par une jeune génération qui se bat pour apprendre le français, pour trouver des débouchés dans une région qui est massivement investie par l'anglais, bien sûr. D'ailleurs, l'anglais est la langue de travail des Asiatiques entre eux, hein. La langue de travail de l'ASEAN, par exemple, c'est l'anglais, c'est pas le chinois ou une autre langue asiatique. Donc, on a quelques marges de manœuvre assez étroites, mais qu'on investit à notre modeste mesure.
Il y a un autre phénomène, pardon, je vous interromps, qui est le retour de Vietnamiens exilés. Je crois qu'il y a quelques 4 millions de Vietnamiens qui ont quitté leur pays, parfois dans des conditions extrêmement, le plus souvent dans des conditions extrêmement difficiles, et on voit que la jeune génération ou bien rentre au pays, ou bien imagine des entreprises qui sont à cheval entre le Vietnam d'aujourd'hui et le pays où leurs familles se sont réinstallées.
Oui, c'est très juste, et d'ailleurs c'est un élément de la politique du régime vietnamien actuel assez fort. Il a beaucoup ouvert, effectivement libéralisé le retour des Vietnamiens qu'on appelle les Viet Kieu, les Vietnamiens d'outre-mer, facilité leurs investissements au Vietnam, et donc un certain nombre de Vietnamiens ou d'Américains d'origine vietnamienne, d'Européens, de Français d'origine vietnamienne, rentrent effectivement au pays, apportent leur savoir-faire, leurs compétences, investissent, et c'est une manne qui se chiffre à plusieurs milliards d'euros. Ce n'est pas négligeable pour un pays comme le Vietnam.
Benoît Tréglaudet.
Non, pour rebondir sur ce que vient de dire Pierre Journoux, je crois que c'est un mal français ou un cliché très tenace en France. Effectivement, le Vietnam n'est pas francophone, mais il n'a jamais été francophone. Rappelons-nous qu'en 1940, il y avait 34 000 locuteurs de français sur une population de 23 millions d'habitants. Et aujourd'hui, on estime à un maximum de 600 000 locuteurs de français sur un pays qui compte près de 100 millions d'habitants. Donc, on ne doit pas capitaliser notre relation à ce pays sur cette dimension-là.
Et sur le plan économique ?
Sur le plan économique, les chiffres sont ce qu'ils sont, mais c'est vrai que on est loin de l'ambition en fait qui était proférée par le président François Mitterrand lorsqu'il est revenu. Il a été le premier chef d'État occidental à se rendre au Vietnam en 93, et il voyait dans le Vietnam la plateforme pour le retour de la France en Asie du Sud-Est ou même en Asie. Et à l'époque, la France avait à peu près 5 à 6% de parts de marché au Vietnam. Aujourd'hui, hors aéronautique, on plafonne à 0,6%. C'est pas faute à la France uniquement, c'est aussi faute à l'ouverture de l'économie vietnamienne et à son inscription en Asie. Le Vietnam est devenu une puissance asiatique intermédiaire, et ça on l'oublie trop souvent. Il n'a eu une histoire qui était tournée pendant 6 décennies ou 7 décennies vers l'Occident, la France, puis le bloc socialiste, l'Union soviétique, etc. Et depuis les années 90, le Vietnam est devenu un pays asiatique.
Pays asiatique, Valérie Niquet, ce qui veut dire en particulier un rapprochement avec le Japon.
Oui, alors effectivement, et là on en revient à ces enjeux stratégiques dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel rapprochement avec le Japon? Alors il y a d'abord cette volonté de la part des Japonais, qui eux aussi sont très dépendants du marché chinois et d'investissement en Chine, de trouver d'autres lieux de diversification de leurs de délocalisation en quelque sorte. C'est la même chose pour Taïwan dont on n'a pas parlé, mais qui est totalement intégré à la Chine.
On a discuté de Taïwan dans cette émission il n'y a pas si longtemps.
Voilà, mais qui aussi s'intéresse au Vietnam pour ces raisons-là. Donc il y a un intérêt économique de la part du Japon, et il y a également un intérêt stratégique qui a été boosté d'abord par l'arrivée au pouvoir d'un Premier ministre Abe, qui lui met beaucoup plus l'accent sur les questions stratégiques et le développement du rôle du Japon en tant que puissance normale, entre guillemets, en Asie, face à la Chine, très clairement.
Et en s'appuyant sur les États-Unis, voilà, puisque M. Abe va jusqu'à proposer le prix Nobel soit décerné à
certaine que ce soit la meilleure chose qu'on ait pu lui conseiller, et on ne sait pas très bien qui au Japon a pu lancer cette idée.
Ça doit être l'effervescence d'une partie de golf.
Pour plaire au président américain. Mais ce qui est certain, c'est que plus sérieusement, pour le Japon, le Vietnam fait partie de ses partenaires avec lesquels les relations se sont totalement normalisées en dépit du passé de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est le cas pour l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Et le facteur principal étant justement la volonté d'équilibrer la Chine. Le Japon a par ailleurs adopté dans les années 2015-2016 de nouvelles règles, notamment d'exportation de technologies militaires, et qui lui permettent maintenant de développer des coopérations dans ce qu'ils appellent le développement des capacités dans des pays tiers. Et donc le Japon fournit aujourd'hui au Vietnam et aux Philippines et à d'autres des bâtiments de garde-côtes, par exemple, qui sont destinés à renforcer les moyens du Vietnam face à la puissance chinoise en mer de Chine. Donc cette dimension stratégique, facilitée par les évolutions internes au Japon et par le fait que finalement pour tous ces pays, la menace principale aujourd'hui, ça n'est plus le retour du militarisme nippon, mais c'est bien justement la volonté d'équilibrer la puissance chinoise. Et c'est ça qui est au cœur de ces jeux stratégiques qui se mettent en place dans la région.
Mais ce sont des jeux d'autant plus difficiles que l'attitude de Donald Trump n'est pas toujours prévisible. Et encore, le terme est...
Alors effectivement, Donald Trump inquiète, et en tout cas pour le Japon, la priorité c'est bien effectivement de tenter d'apaiser les États-Unis, de courber un peu le dos devant les imprévisibilités éventuelles du dirigeant américain, d'éviter d'être trop marginalisé dans les jeux qui dans les négociations qui se mettent en place, que ce soit avec la Chine sur les questions commerciales ou avec la Corée du Nord sur la question nucléaire, et justement pour Tokyo aussi. Développer des liens avec d'autres puissances régionales, Inde, Australie, Japon, Vietnam, Philippines, c'est un moyen d'entrer dans un réseau, y compris d'ailleurs très au-delà Europe. Lorsqu'il a lancé son idée d'Indo-Pacifique libre et ouvert, le Premier ministre Abe tendait aussi la main vers des puissances plus lointaines, comme la France, qui d'ailleurs adhère également à cette idée. Donc il s'agit de s'intégrer dans une sorte de réseau plus large qui permette à la fois de mieux gérer la relation avec les États-Unis et en même temps d'équilibrer la relation avec la Chine, sachant qu'il y a quand même un gros point d'interrogation pour le Japon, c'est la relation extrêmement compliquée, alors on s'éloigne un peu du Vietnam, mais tout est lié en Asie, avec la Corée du Sud, où la Corée du Sud a ses propres intérêts stratégiques avec son voisin du Nord.
Et où la mémoire historique reste
d'autant plus que on est dans une période où il y a un peu une sorte de volonté aussi en Corée du Sud de jouer à vraiment de mettre l'accent sur le crédit nationaliste véritablement du régime sud-coréen face à une Corée du Nord qui a toujours été présentée comme ayant été plus résistante ou plus révolutionnaire.
Mais avec un président sud-coréen qui est très proactif
à l'égard de la Corée du Nord et très hostile, en tout cas très prêt à utiliser la carte historique face au Japon, c'est certain.
Benoît Tréglaudet, on arrive vers la conclusion de cette émission. Ce qui est remarquable dans le cas du Vietnam, c'est donc cette capacité de concilier des contradictions internes, donc ouverture, fermeture, et en même temps, d'assurer ce jeu de de balancier subtil entre le grand voisin chinois et les...
Vietnam, a, si on regarde son histoire sur un temps long, a quasiment toujours fait cela et a très très mal vécu les rares périodes où il n'a pas réussi à le faire. À la fin des années 40, pendant 4 ans, le Vietnam était isolé. Il n'était pas au début de la guerre froide, ni dans le camp occidental, ni dans le camp soviétique. C'est une période qu'ils appellent le grand encerclement et c'est toujours un traumatisme important pour les communistes vietnamiens. Même chose dans les années 80, quand les Vietnamiens ont envahi le Cambodge, ils ont été mis au banc de la communauté internationale et ça reste un trauma très important pour les Vietnamiens. Donc c'est cette logique de l'équilibre...
Un trauma de leur propre fait, en
de leur propre fait, mais un trauma...
L'occupation du Cambodge reste pour les Cambodgiens d'abord aussi...
Demandez à beaucoup d'officiels vietnamiens, ils estiment qu'ils ont fait œuvre humanitaire à libérer en fait le Cambodge de Pol Pot.
Oui.
Il y a une dimension qui est importante, parce qu'on a parlé de grands jeux, on a parlé de diplomatie, d'influence des grandes puissances au Vietnam. Il y a quand même au Vietnam une diplomatie de l'émotion qui reste quand même. La relation que les Vietnamiens ont avec les Américains, elle n'est pas complètement dénuée en fait de la mémoire de la guerre et de l'émotion qui reste. Il y a encore des élites et des dirigeants qui sont écorchés vifs dans leur rapport à Washington.
Et puis il y a surtout, on l'oublie, ça a été quand même la plus grande guerre chimique du XXe siècle. Et donc il y a encore des mines et des bombes et il y a encore tout un travail de...
Il y a encore tout un travail de
nettoyage,
recherche de
si
corps,
j'ose dire,
etc.
C'est qui n'est pas achevé.
Qui n'est pas achevé.
Néanmoins, ce jeu subtil, encore une fois, entre le grand voisin chinois, Washington, et les nouveaux alliés ou les alliés régionaux, dont, avec des liens resserrés, c'est toute l'habileté du régime de Hanoï.
C'est la réponse que les élites au Vietnam ont toujours trouvée pour pouvoir ménager et préserver leurs intérêts nationaux.
Valérie Niquet, cette consécration, en quelque sorte, du rôle du Vietnam, jusqu'à quel... Qui est-ce que cela peut inquiéter dans la région? On imagine bien que cela peut irriter Pékin par moment, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs régionaux qui pourraient en tirer ombrage?
Alors, je ne suis pas certaine que ça irrite véritablement. Le Vietnam n'est pas assez gros pour faire peur à beaucoup de monde. Ceci dit, au sein de l'Association des pays d'Asie du Sud-Est, où le Vietnam joue un rôle quand même important, il est certain que l'ensemble des pays de la région sont toujours très très soucieux des équilibres et du poids de chacun. Donc, ne serait peut-être pas forcément ravi de voir un Vietnam qui émergerait comme la puissance leader, mais on n'en est absolument pas là, je veux dire, au sein de l'ASEAN. Mais l'ASEAN est diverse. Il y a des groupes d'alliances qui se complètent, des intérêts communs. Encore une fois, là aussi, le facteur chinois joue le rôle de ciment, même si certains pays sont beaucoup plus proches de Pékin que d'autres. Même sans le dire, souterrainement, chacun essaye de... Encore une fois, cette volonté d'équilibre est très forte. Donc je ne pense pas que le Vietnam fasse peur. C'est d'ailleurs sa force aussi, finalement. Mais s'il émergeait comme une sorte de superpuissance de l'Asie du Sud-Est, c'est certain que certains pourraient en prendre ombrage, mais encore une fois, on n'en est pas du tout, on n'est pas dans cette configuration pour le moment.
N'oublions pas aussi peut-être que l'année prochaine, le Vietnam va prendre la présidence tournante de l'association régionale, donc de l'ASEAN. Donc cette dimension, on va dire, de responsabilité sur l'échiquier international est importante pour les Vietnamiens.
Et annoncé et affiché comme tel par le régime.
Et affiché comme tel par le régime, encore une fois, pour pouvoir mieux se défendre dans des discussions plus compliquées avec la Chine.
Eh bien, merci à tous de nous avoir éclairés sur ce tigre asiatique, pas suffisamment gros pour faire peur aux voisins, et néanmoins qui mérite véritablement l'intérêt et qui est encore une fois dans un développement économique et une consécration de son rôle diplomatique tout à fait intéressante. Merci à vous, Benoît de Tréglaudet. Vous avez dirigé la publication de l'histoire du Vietnam, de la colonisation à nos jours, en mars 2018 aux éditions de la Sorbonne, et plus récemment avec Nathalie Faux, maire d'Asie du Sud-Est, coopération, intégration, sécurité aux éditions du CNRS. Merci à vous, Valérie Niquet. Vous avez publié en 2017 La puissance chinoise en 100 questions aux éditions Talendier. Merci à Philippe Lecor qui était avec nous par téléphone depuis Boston, à Pierre Journoux, professeur d'histoire contemporaine à Montpellier. Vous allez publier en avril prochain, Dien Bien Phu, La fin d'un monde, aux éditions Vendémiaire. Et je remercie bien sûr Jean-Philippe Aiglinger, chargé de cours en économie du Vietnam et en management interculturel à l'INALCO, avec qui j'ai pu enregistrer un court entretien. Merci à Éric Scholl, à Luc-Jean Reynaud à la réalisation ce matin, à Jean Guinamège à la technique. Meryl Moneghetti et Marion Barsac ont préparé cette émission que vous allez pouvoir retrouver sur le site de France Culture. Et dans quelques instants, comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end.